Michel Sardou,
bonjour. Oui, bonjour.
Alors, vous publiez « Je ne suis pas mort, je dors » avec un gros point d'exclamation aux éditions XO. Dites-moi, vous aviez pourtant déjà fait paraître des souvenirs dans « Qu'on n'en parle plus ».
Oui.
Et vous dites dès le début du livre que parler de vous est un exercice éprouvant. Alors, oui. je me demandais, mais pourquoi recommencer ? Est-ce du masochisme ?
Non, c'est le confinement. J'étais confiné à la campagne. Alors bon, je lisais beaucoup, je regardais la télé, je jouais aux échecs. Mais enfin, au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. Et puis finalement, je dis, tiens, ça va peut-être m'occuper. Je vais voir si ça vient. Bon, sans idée précise, sans plan, sans rien. Je travaille rarement d'ailleurs avec un plan. Et puis c'est venu comme ça, au fil de la plume, comme on écrit les chansons. Quoi. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas un écrivain, je suis un parolier. Je mets des textes sur des musiques ou de la musique sur des textes, mais je n'ai pas le souffle d'un romancier. Et le fait de faire appel à ma mère outre-tombe me permet d'être plus vivant que si je devais écrire tout comme ça. Puis écrire en chronologique, bref... Ça m'ennuie un peu, donc j'ai essayé...
La chronologie m'emmerde autant qu'une équation à deux inconnus.
À deux inconnus, oui, c'est vous dire.
mais tout de même, je reviens à ma question. Pourquoi, puisque vous étiez déjà raconté dans ce livre...
Non, mais j'avais romancé
le premier.
Pourquoi
y revenir ?
Le premier, on m'avait reproché une chose qui est un peu vraie. J'avais romancé. C'est-à-dire que tout ce que je disais était vrai, m'était arrivé, mais... par exemple, la mort de mon père, j'en avais fait quelque chose un peu de romanesque, un peu presque d'attendrissant, d'amusant. Et on m'a tous dit, oui, enfin, tu racontes pas la vérité, c'est pas ça, donc dis-nous ce qui s'est vraiment, vraiment passé. Bon, donc là, j'ai dit un truc où tout ce que je dis, sauf certaines choses, mais je préviens le lecteur, dont je ne parle pas, bon, mais tout le reste, c'est vrai.
Alors justement, cette conversation imaginaire avec votre mère, vous passez du coq à l'âne comme dans une véritable conversation.
C'est ça.
Elle n'est pas dupe. Est-ce que ce dialogue vous pousse à dire la vérité, à tout dire cette
fois-ci ? Oui, ou alors ce que je n'aimerais pas dire, mais que je suis obligé de dire, je le fais dire par ma mère. Vous comprenez, c'est une manière de me dédouaner. Voilà.
Pourquoi ce titre, Michel Sardou, « Je ne suis pas mort, je dors », qui est le nom d'une de vos chansons, sortie en 1979 ?
Parce que ça me rappelle un souvenir assez amusant. J'avais été invité à déjeuner à l'Élysée par le président François Mitterrand. Et je m'attendais à être dans un groupe, vous savez, comme ils font souvent les artistes, les célébrités, enfin, des choses comme ça. Et je me retrouvais tout seul dans le salon Murat avec mon verre de champagne à la main. Je commençais à m'inquiéter un peu, enfin pas à m'inquiéter, mais enfin à me poser des questions. Puis le président est rentré et de but en blanc, il m'a dit « Je vous préviens, je connais toutes vos chansons. Et pour vous faire plaisir, on va déjeuner dans la salle à manger de Georges Pompidou. » C'est très gentil à vous, parce qu'il savait qu'il se souvenait, je ne sais pas comment, que quand j'étais très jeune, je collais des affiches pour Georges Pompidou. Avant qu'on s'est assis, il m'a dit « Je connais toutes vos chansons. Il y en a une que vous mettez plus sur scène, c'est « Je ne suis pas mort, je dors » et vous avez tort. Parce que c'est une excellente chanson de scène. Et depuis, je l'ai remise chaque fois. Je ne l'ai jamais retirée. Voilà. Et comme ma maison d'édition ne met pas le titre que j'avais choisi au début, et m'en avait proposé un autre qui me déprimait complètement, j'ai dit « Tiens, mais pourquoi pas celle-là, ce titre-là » Voilà.
Quel était l'autre titre ?
Moi, j'avais choisi Fatum. Mais
le destin ?
Oui. Ouais. Voilà, vous avez compris, vous, mais à l'édition, ils n'ont pas compris. Alors, voilà.
Alors, la chronologie vous emmerde, mais
oui.
Pourtant, on va respecter cette chronologie et on va parler un peu de votre enfance.
Oui.
Diriez-vous que vous avez été un enfant heureux, Michel Sardou ?
Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas été malheureux. J'ai été un peu seul. Mais la solitude me convient très bien. Ou alors c'est à cause du fait que j'ai été seul qu'elle me convient maintenant. Mais je n'ai pas été malheureux. Mes parents étaient toujours absents, toujours en tournée, toujours par Mons et par Vaux. Donc j'étais libre, en fait. J'avais beaucoup plus de liberté qu'un enfant sous la surveillance de papa-maman. Donc j'étais bien. J'étais en pension, mais pas de pension. La première n'était pas terrible, mais je m'en suis accommodé bien. Et après, bon, bah, j'ai... Mais je n'étais pas en froid avec mes parents, hein, soyons clairs. Tout allait très bien, sauf que, un peu comme les marins, si vous voulez, bon, bah, faut bien attendre qu'ils rentrent. Quoi, voilà.
Vous étiez un enfant d'artiste.
Voilà. Oui.
Alors, à propos de cette enfance, vous dites dans ce livre, vous racontez que le plus beau souvenir, c'est le temps passé chez votre nurse. Marie, la garde-barrière, la grosse
dans
paysanne.
Dans un village qui s'appelle Cœur-la-Petite, je vous mets au défi de le trouver, qui est au bord de la Meuse, et un tout petit village de...
Vous en parlez autrement dans le livre. Vous vous souvenez de la formule?
Le trou du cul du monde, oui. Et c'est vraiment le trou du cul du monde au bord de la Meuse. Et là, j'étais à la campagne, j'étais dans une petite ferme. Alors, j'ai tout eu, là. J'ai appris des tas de choses... Un jour, je suis même tombé sur un pendu au milieu de 140 fromages de chèvre qui pendait dans des barésilles, et lui pendait, mais lui autrement.
Mais vous en parlez avec un sourire, bah, c'est marrant. Pour l'enfant que vous étiez, ça devait être un choc, un traumatisme, non? Ah bon?
Mais non, mais c'est marrant d'ailleurs. Je vois ce type qui se balançait doucement comme ça au milieu des fromages de chèvre de Marie. Et je dis, et la seule chose qui m'a frappé, c'est qu'il était habillé en dimanche. Il s'était fait beau pour mourir. Et je demande qui c'est, personne ne me répond, etc. Bon, et puis là, je fais intervenir ma mère qui dit qui c'était. C'était en fait un amoureux éconduit de Marie qui, pour se venger, est venu se tuer chez elle. C'est presque du Victor Hugo.
Ou du Maupassant.
Ou du Maupassant, oui.
Alors, vous racontez aussi, là on fait des grands bonds, hein, dans le temps, vous racontez votre mai 68. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très révolutionnaire.
Non, il a été comique. Je voulais voir de près ce qui se passait. Ça m'intéressait quand même ce qui se passait. Et je suis allé à la Sorbonne dans l'amphithéâtre Michelet, qui était bondé. Au bout, il y avait une estrade sur laquelle il y avait Cohn-Bendit et Sauvageon et un autre, j'ai oublié son nom. Et à un moment donné, évidemment, le Cohn-Bendit ou Sauvageon pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et un doigt se lève, un révolutionnaire, assis devant, qui nous dit, si on allait peindre la Joconde en rouge. Et là... Je suis parti, j'ai siphonné les voitures, j'ai été à la campagne. Voilà. La révolution s'est arrêtée là, parce que vraiment, c'est un confiné.
Il y a une phrase qui m'a intéressé, où vous parlez de votre capacité d'oubli phénoménale.
Oui.
Que vous oubliez tout, je suis incapable de m'attacher à une chose, un pays, une maison, rien, une fois le passé derrière moi, j'efface. Est-ce que vous avez eu besoin d'oublier pour avancer, tout simplement?
Non, non. J'ai toujours... J'avais fait une chanson, d'ailleurs, qui expliquait ça... qui disait grosso modo la pluie de Jules César est la même que celle qui est tombée ce soir dans la rue de Courcelles. Donc, pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est aussi vieux que Jules César. Ce n'est pas le passé qui me fera faire l'avenir, qui me servira dans l'avenir, il me servira en référence. Je peux avoir des rêves, j'adore l'histoire par exemple, mais je veux dire, je crois que c'est le présent qui fait demain et non pas hier qui fait demain. C'est une... philosophie tout à fait personnelle et je suis ouvert à toutes les contradictions. Mais c'est maintenant qu'on fait demain. C'est pas parce qu'on a des souvenirs. Ça nous donne un peu d'expérience sur certaines personnes, certains spectacles qu'on fait. Mais c'est tout. Donc je suis pas rancunier. Donc, si jamais je me souvenais de mauvais souvenirs, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Voilà.
Pas de rancune, pour
non.
Personne.
Ah, pour personne, non. Je ne suis pas rancunier. Mais on ne m'a jamais fait non plus des choses exceptionnellement graves. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir de la rancune pour l'un ou pour l'autre. Il y a eu des mésententes, il y a eu des séparations, il y a eu des tas de choses. Mais comme vous allez dire, comme chacun de nous.
Vous évoquiez vos parents et la liberté. Et pourtant, vous dites que vous vous êtes marié la première fois à 18 ans. Je me suis marié pour être libre. Je n'en pouvais plus de cette famille qui passait son temps à s'engueuler.
Ah oui, ils s'engueulaient sans arrêt. Ça, c'était insupportable. Insupportable. Et quand on connaît la voix et la portée et l'aigu de ma mère, c'est vous dire que c'était vraiment insupportable. Surtout que mon père ne disait rien. Il jouait la carte. Il disait rien. J'avais envie d'être libre, voilà. de dépendre que de moi-même. À l'époque, la majorité était à 21 ans. J'en avais 17 ou 18, je ne sais pas. Et j'en pouvais plus de dépendre d'une décision de ma mère, d'une décision de mon père, qui n'était pas sévère, hein, je vous le rappelle. C'était pas, je ne vivais pas l'enfer, ce n'était pas folcoche du tout. Mais j'avais envie d'être libre, tout simplement. Alors je me suis marié.
On parle de la carrière, de vos débuts. Alors, il y a cette phrase qui est peut-être une des plus étonnantes du livre, qui nous a surpris, Steven et moi-même. « Je n'ai jamais eu l'envie d'avoir envie d'être un chanteur. » Plus loin, vous dites « Je n'ai jamais rien choisi. » Et vous avez fait carrière par hasard ?
Un peu. Un peu par hasard. Même pas un peu. Nous étions un groupe de poètes désespérés autour de Michel Fugain. Un jour, il me dit, on devrait quand même voir ce qu'on écrit, ce que ça donne. Il y avait une audition publique chez Barclay à Vinoche. J'y vais avec Fugain, qui m'accompagne à la guitare. Je n'étais pas un chanteur de qualité, je n'ai pas beaucoup de voix. Je fais cette audition, et de tous ceux qui étaient là, le seul qu'on engage, c'est moi. Et je m'en foutais un peu, parce que comme je ne voulais pas être chanteur, dans ma tête, ça ne me venait pas à l'esprit d'être chanteur. Ce n'était pas ce que je voulais, bon, je n'imaginais pas. Donc je fais un disque qui ne marche pas, je m'en fous un peu. Je me dis, de toute façon, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas, c'est pas mon métier. J'en fais un deuxième qui ne marche pas non plus. Enfin, à part ma mère qui en achetait 12 à chaque fois, enfin bon, ça ne suffisait pas. Et finalement, je me fais renvoyer de chez Barclay, on vend mon contrat, et je me retrouve libre, sauf que le pauvre Eddy ne savait pas qu'en me rendant mes masters, il y avait dedans la maladie d'amour, les balles populaires, il y avait 17 millions de disques. Et Polydor, à l'époque, c'était Polydor qui m'a repris et qui a sorti les titres. Voilà.
Les balles populaires qui va être votre premier succès, chanson que je n'ai jamais aimée.
Ah non, jamais aimé ça.
Dites-vous.
J'ai jamais aimé cette chanson, pourtant je l'ai écrite. Mais j'ai écrit avec Buggy, je crois, d'ailleurs. Je trouvais ça... Enfin, je ne prenais pas de plaisir à chanter ça. Voilà. Mais seulement, c'est grâce à elle que j'ai été, d'un seul coup, propulsé, pas en haut de l'affiche, il ne faut pas exagérer, mais que ça a commencé à exister. Voilà.
Vous dites que vous n'avez rien choisi, alors que vous rêviez de cette vie d'artiste et de cette liberté.
Oui, mais c'était un artistique plus... théâtre, cinéma, pas Beaux-Arts, évidemment, mais ce n'était pas du tout la chanson. Je vous dis, j'étais complètement étranger à les chanteurs que j'écoutais à l'époque, où les chansons que j'écoutais étaient essentiellement américaines. Je n'étais pas du tout dans l'avenir que j'ai eu. Si vous m'aviez dit, même il y a encore 20 ans, que ça allait durer 20 ans, j'aurais dit non. À chaque fois que je sortais un disque, je me disais, c'est le dernier. Après, c'est fini, ça ne marchera plus. Voilà l'état d'esprit où j'étais. Mais comme le succès change un homme, quand même, et que c'est très agréable, il faut le reconnaître, vous avez un grand public, vous avez des gens qui vous aiment, vous leur faites plaisir, ils vous font plaisir. Enfin, c'est tout un échange. Évidemment, ça m'a plu. J'ai tenu autant que j'ai pu. Et ça a duré quand même 50 ans, ce qui n'est pas rien pour une carrière de chant.
On parle des amitiés ? Notamment, vous évoquez celle née au Moncel, je cite ce collège de Bourges friqué,
oui.
Et vous citez Gérard Garouste, Jean-Michel Ribes et Patrick Modiano.
Oui.
Moi, en tant que journaliste littéraire, ça a particulièrement attiré mon attention. Et vous dites que Modiano était un grand champion de la corde à nœud.
Il était nul en sport. La seule chose qu'il faisait, c'est la corde à nœud. Il était très fort parce qu'il est très grand. Et c'est un ami de la famille. D'ailleurs, un vieil ami de ma femme. C'est
Anne-Marie Perrier.
Anne-Marie Perrier. Donc lui il fait vraiment rire aussi, parce que je le rencontre de temps en temps, mais finalement pas beaucoup, pas assez. Garouste, c'est un personnage assez particulier, mais un talent de peintre que vous connaissez. Et Modiano, je le vois souvent. D'ailleurs, on doit se voir là très vite. C'est la campagne. Il va absolument voir ma maison en Normandie. Voilà.
Et alors, de quoi parlez-vous quand vous êtes avec Modiano? Parce que les conversations avec Modiano sont toujours imprévisibles.
Il ne parle pas, Modiano.
Ouais.
Il est très taiseux, Modiano. Il est très... Et sauf quand on est ensemble, parce qu'on a fait un dîner ensemble, tous les quatre. On s'est retrouvés avec ma femme et sa femme, et Ribes et Garouste. Et il n'a pas arrêté de nous rappeler nos souvenirs. Il se souvenait de trucs que moi, j'avais complètement oublié.
Il a une mémoire phénoménale.
Ouais. Là, on s'est beaucoup amusé. Voilà. C'est pas un clown, mais pas loin.
Ah, mais on aimerait être petite souris tout de même pour assister à ces dîners, ces échanges entre Michel Sardou et Patrick Modiano.
Il avait d'ailleurs écrit, Modiano, un livre autour de ses années au Moncel. Est-ce que vous, le Surveillant Général, est une chanson qui évoque ses années au Moncel?
Non, pas du tout. Non, c'est complètement inventé. Ça vient d'une lecture que j'avais faite ou d'un film que j'avais vu ou que sais-je. Mais c'était venu de là. Je n'ai absolument pas vécu ce genre de choses à... Enfin, ces relations-là dans les deux pensionnats où j'ai été.
Alors, au Moncel, il y avait aussi un certain Patrick Balkany, non?
Oui, il y avait Balkany, qui était charmant. On était aussi des conneurs que nous, d'ailleurs. Il faisait partie de la bande, on était les mousquetaires. Et ma mère me rappelle, tiens, tu fais semblant d'oublier Balkany. Non, j'oublie pas Balkany. Sa carrière est sa carrière, ce qu'il fait, il le fait, ça le regarde, ça ne me regarde pas, c'était un très beau copain et ça l'est toujours resté, c'est un ami. Maintenant, les ennuis qu'il a ne me regardent pas et la politique qu'il mène ne me concerne pas non plus.
Alors il y a une autre amitié qui est celle avec Guy Bedos.
Ah oui, ça c'est autre chose, c'est la famille ça.
C'est différent?
Avec Guy, c'est une belle histoire parce que apparemment, on n'était pas fait pour être père et fils. J'exagère en disant père et fils, mais...
Frère,
voilà. Il est venu à mon secours à une époque où la presse était très, très rude avec moi, avec Bontemps, avec Reggiani, avec des proches, etc. Il est venu un peu à mon secours et ça s'est passé de façon assez jolie. J'ai été invité à venir à un récital de Bontemps. Et... à l'Olympia. Et donc, après le récital, évidemment, tout le monde se retrouve dans les loges. Vous savez. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin. Il y avait toute la bande à Bontemps qui était de l'autre côté, la faucille et le marteau. Et moi, j'étais tout seul. Et Bedos me dit, attends, tu vas pas rester là comme un con tout seul. Viens, je vais t'emmener voir Bontemps. Et je suis rentré dans la loge de Bontemps grâce à lui. Et on est devenus amis avec lui, etc. Donc... voilà, ça s'est passé comme ça, la première rencontre comme ça, et malheureusement la dernière, c'était pour son dernier anniversaire, on était chez lui avec Fanny Ardant, Jean Dujardin, Jean-Paul Belmondo, Jean-Loup Dabadie, et il était un peu diminué, un peu malade quand même, et c'est la dernière fois où je l'ai vu. Et je le regrette beaucoup parce que j'aimais beaucoup cet homme. Il avait une phrase pour moi qui disait en scène, je pensais que vous allez me demander, c'est pour ça que je vous le dis avant. Il disait, Sardou, c'est un type qui chante juste, mais qui pense faux.
Mais c'est peut-être, vous citez beaucoup de personnalités dans ce livre, c'est sans doute l'une de celles pour lesquelles vous avez les mots les plus touchants, en effet. Et vous dites en particulier, je ne pourrais jamais oublier Guy Bedos.
Non, jamais, jamais. Parce que c'est... comment vous dire, on avait une relation vraiment familiale. Je savais qu'il était là, il savait que j'étais là. C'était un homme merveilleux. Hein. Il avait un humour fou, il avait un talent fou. Ah, tiens, on parle de livres. Il était bien meilleur écrivain que moi. C'était un personnage formidable.
L'autre amitié qui a marqué votre vie, c'est celle avec Johnny Hallyday.
Oui.
Nous avons vécu comme deux frères, écrivez-vous. Est-ce que Johnny reste l'une de vos plus belles histoires d'amitié?
La plus longue, en tout cas. Ouais, la plus longue. Et certainement une des plus belles, parce qu'on s'est quand même franchement bien marré pendant 30 ans. On a passé de bons moments. Malheureusement, j'ai commis une faute, une erreur. J'ai voulu faire de l'esprit. Je ne sais pas mon truc. Sur scène, tout du moins. J'ai voulu faire une improvisation parce que j'étais submergé par la presse People. Vous voyez, tous les matins... Johnny Suisse, Johnny à je ne sais pas où en Suisse, je ne m'en rappelle plus. Et un jour, je me moque de lui et de son clan en Suisse, machin, etc. Mais au lieu de le faire avec... Je l'ai fait sans penser à mal, moi. Seulement, évidemment, quelqu'un a été lui répéter. Évidemment. Parce que dans ce métier, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des gens qui écoutent et qui répètent. Oui, c'est un peu fouché dans le coin, autour. Et qui lui a dit que je lui étais moqué de ses enfants. À aucun moment. Mais à aucun moment. Bon. Et j'en parle à Eddie qui me dit « Oulala, c'est à parler des filles, tu vas être emmerdé. » Et j'ai été emmerdé, effectivement. Il l'a très mal pris. Un jour, on se rend compte, c'était l'anniversaire du président Sarkozy, on était chez lui. Je me lève et je lui dis « Écoute ce que j'ai à te dire. » Au moins, c'est... Je veux te parler, mais je ne veux pas parler avec toi. Je lui ai dit, ça tombe bien, t'as qu'à écouter. Je vais te dire ce qui s'est passé. J'ai fait une connerie. Je me suis lancé dans une improvisation qui, mon Dieu, n'était pas bien. C'est vrai, il faut le reconnaître. C'était pas drôle, ni drôle, ni intelligente, ni quoi que ce soit. Il n'a jamais voulu. Et on ne s'est plus jamais reparlé.
Ça reste une blessure pour vous ?
Pas une blessure, un regret. Parce que bon, je pense que si je lui avais raconté exactement l'histoire, il aurait compris. Bon, il n'a pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'allais pas non plus... arrivé avec la corde au cou et les clés de la ville. Je dis, bon, bah, tant pis, c'est dommage, quoi, c'est tout.
On se souvient que vous aviez dédié une chanson à Johnny, hein, à l'idée Le Phénix en 73, et vous y chantiez « Et ta vie et ton sort défient tous ceux qui crient ta mort, je te suivrai jusqu'à ma mort ». Quand vous avez appris son décès, vous avez réagi comment, Michel Sardou ?
Oh, bah, comme tout le monde, ça m'a fait beaucoup de chagrin, surtout qu'il est mort malade. Il est mort diminué, donc franchement, ça m'a mis un coup. Je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas qu'il allait en mourir. Donc ça m'a fait du mal, évidemment.
Mais heureusement, vous avez passé de bons moments. Oui, vous en racontez plusieurs dans le livre. Je ne sais pas s'il fallait en évoquer un seul, le plus fou pour vous, celui qui vous laisse le souvenir le plus enthousiasmant, le plus drôle.
Je finis le livre avec une histoire où on fait de la philosophie, de l'ésotérisme mystique. On était ivre mort, hein. On était chez moi.
Ça vous arrivait de temps en temps. Hein.
Avec lui, beaucoup. Oui. Mais maintenant, c'est fini. D'ailleurs, j'ai arrêté. Et où ma mère me fait dire, quand on prend du hashish avec de l'alcool, ça donne faim et ça rend con. C'est exactement ce qu'on était à ce moment-là.
Vous avez même dormi avec Johnny.
Voilà, c'était une histoire dans un hôtel très drôle. On était crevés. Je crois qu'on avait fait près de 400 km en moto. Et on arrive dans un hôtel qui avait été réservé par la production des Restos du Cœur, je crois. Donc le patron de l'hôtel avait mis la chambre royale, la chambre présidentielle, etc. On était tellement crevés qu'on rentre dans la première, on retire nos bottes, on se couche sur le lit, on se couche. Et l'autre en descendant, il dit « Vous saviez que Sardou et Johnny couchaient ensemble ou... ?» à ses employés, voilà.
Vous auriez dû, Michel Sardou, être de l'aventure des vieilles canailles.
J'aurais pu, mais bon, ça ne s'est pas fait. Parce que je travaillais. Et je pense que Johnny n'y tenait pas. Qui était rancunier, le vieux. Donc, ça m'a été égal.
Vous avez regardé le spectacle en DVD ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Ça vous est égal de ne pas y avoir été associé ? Vraiment ?
Ah, vraiment, oui. Vraiment. Je vous dis, je ne suis pas rancunier, je suis pas... C'est passé. C'est terminé, les vieilles carrières. Ça a très bien marché, d'ailleurs.
C'est pour ça que je vous pose, entre autres, la question.
Ça a marché sans moi. Donc, il n'y a pas de regret à avoir.
Parlons de la scène, justement. On apprend que vous avez une petite habitude, que ce soit au théâtre ou quand vous êtes dans un zénith. Avant de monter sur scène, qu'est-ce que vous faites ?
Je cherche une croix. Tout ce qui peut faire croix. Là, vous voyez, le rideau, là, avec le bord de fenêtre, ça fait une croix.
Ah oui, c'est pas forcément un crucifix.
Ah non, c'est ce que je dis, c'est pas une croix d'église. Ouais. Non, c'est une croix. Et un jour, je me rappelle, j'ai eu une histoire avec ma mère, mais ça qui est vrai... J'étais dans les arènes de Fréjus, je suis rentré trop vite. Le bord de scène n'était pas marqué, comme d'habitude, on a toujours une petite bande blanche qui le monte pour ne pas tomber, parce qu'on ne voit rien avec les lumières. Je rentre et je me casse la gueule de 3 mètres de haut. Je me rétame sur le dos en bas. Il y a un type qui me dit « Ne bougez pas, Michel, vous êtes cassé la colonne vertébrale. » Je dis « était là, il me relève, il me dit « Écoute pas, c'est un con. » Je remonte. Et ma mère me dit, mais là, tu n'avais pas trouvé de croix. Ben, je dis, maman, dans une arène romaine de cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup.
Ça n'a rien à voir avec le trac.
Ben, le trac, je ne l'ai pas, paraît-il. Je ne le ressens pas, moi. Ce que je n'aimais pas au début, c'est me montrer.
Vous n'aimez pas votre gueule, vous dites.
Oui, c'est ça. Ça me gênait un peu de me montrer, comme ça, en pleine lumière, tout seul. Bon. Mais le trac, non, comment vous dire ça ? Peut-être qu'au tout début, j'ai eu le trac. Pour chanter la première fois, pour chanter la deuxième, peut-être jusqu'à la dixième. Mais après, mon Dieu, je n'avais pas le trac. J'allais faire mon travail.
Il y a une énigme pour moi. Je me demande dans quelle mesure vous preniez vraiment du plaisir sur scène. Vous écrivez notamment, aussi nombreux qu'ils fussent, en évoquant les spectateurs, « J'étais toujours seul ».
Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne prenais pas de plaisir. C'est-à-dire que, pas au théâtre, c'est différent. Mais quand vous êtes en récital, par exemple, Vous avez beau avoir 30 musiciens derrière, ce sont des accompagnateurs, ce ne sont pas des partenaires. Vous êtes seul au milieu. Seul face à eux. Ça, c'est assez troublant. Là, je ressens la même chose en ce moment. Je joue N'écoutez pas, mesdames, de Sacha Guitry, où pendant les 20 premières minutes, je suis seul et je leur explique ce que pense, pas moi, mais ce que pense Guitry, et le rôle que je joue, bien sûr, je des femmes. Voilà, ce qui n'est pas du gâteau à faire passer aujourd'hui. Enfin bon, c'est amusant. Mais le fait d'être seul, c'est quelquefois bizarre. Parce que je ne les vois pas, en fait. Ils peuvent être... Je ne sais pas, j'ai fait 91 fois à Bercy, je crois, on me l'a dit il n'y a pas longtemps. Je n'avais jamais compté, d'ailleurs. Où ils sont 17 000. Je rentrais au milieu. J'avais conçu une scène ronde au milieu. Et en fait... J'étais seul sur cette scène et les 17 000 ou 18 000 ou 20 000, peu importe, c'était trop loin, j'étais trop éclairé, je ne voyais personne. Alors qu'au théâtre, je vois très bien la dame qui essaie de sortir discrètement son appareil de photo pour faire une photo alors que c'est interdit. Je vois tout à fait le type qui s'endort parce que c'est sa femme qui l'a fait venir et lui s'en fout complètement de voir Sardou dans Guitry. Ça, je le vois et ça m'amuse. Mais sur scène, je ne voyais plus les gens. Je ne voyais plus le public. Et le public, Dieu sait s'il est coopératif avec moi. Il est charmant. Il n'y a pas de problème. Il y a des réflexions très drôles, des fois. Bon. Mais en fait, je me disais, je suis dans une cuve à mazout et je suis tout seul. Quoi. Voilà.
La scène, vous lui avez donné beaucoup. Le soir des obsèques de votre mère, vous montez sur scène.
Oui, je monte sur scène.
Et c'est l'un des plus beaux souvenirs, je crois, de scène.
Ah, c'est un souvenir émouvant, oui. Et c'est là où le public est magnifique. C'est là où je me suis rendu compte qu'il faisait partie du spectacle, si j'ose dire. C'est que je monte sur scène. Bon, les obsèques de ma mère avaient lieu le matin. Bon, comme ça se passe toujours. Bon, et le soir, j'avais un concert à Nancy. Je crois que c'est Nancy. Je ne suis pas très sûr. Je dis Nancy, mais je ne suis pas certain. Dans un zénith. Et tout allait bien, je faisais mon métier, j'avais laissé ça derrière moi, je faisais mon travail. Et puis en chantant La fille aux yeux clairs, qui n'a rien à voir avec ma mère, évidemment, comme vous le savez, mais le mot mère me revient. Et à ce moment-là, sans m'en rendre compte, je me mets à pleurer. Et le public l'a vu, s'est levé, et m'a soutenu. Quoi. Ça, c'est un sujet, j'en ai les frissons quand j'en reparle. C'est essentiel pour nous, le spectacle vivant et le public, en face du public. J'ai horreur des trucs où il n'y a pas... Alors en ce moment, c'est affreux, là, le distanciel, comme on dit maintenant. Vous avez besoin au théâtre, c'est pareil, quand vous les entendez rire, c'est magnifique, c'est vous avez gagné. C'est pour ça que je dis, fait partie du spectacle. Imaginez un spectacle sans public, c'est ce qu'on voit en ce moment... C'est d'une tristesse absolue. Il n'y a plus de spectacle, en fait. C'est nous qui faisons le spectacle, certes, mais c'est lui qui le concrétise, qui le matérialise.
Le public a toujours été généreux avec vous. Est-ce
oui.
que vous avez été aussi généreux, vous, de votre côté?
Sur scène, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui faire plaisir. Dans la vie, je suis un peu distant, un peu timide. Ça peut vous paraître bizarre, parce que j'ai la réputation d'être une grande gueule, ce qui est vrai aussi. Mais... Je suis assez réservé, en fait. Or, tant que c'est... Comment allez-vous? Bon, je vous adore, j'aime. Ça, ma grand-mère, quand c'est ma grand-mère, ça m'énerve un peu. Mais enfin, quand c'est ma fille, vous adore, mon fils, moi, je vous aime. Tout, très bien. Je veux une bise. Alors, une bise, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas au-delà de la sympathie rapide, le temps de traverser les coulisses et d'aller à ma voiture. Voilà.
J'avoue ne pas leur en donner beaucoup.
Voilà, je ne leur en donne pas beaucoup. Je sais qu'ils sont déçus, me l'ont dit. Hein. Parce que vous savez, il ne faut pas croire que le public est passif. Quand ça ne lui plaît pas, ils vous le disent. Quand ça lui plaît, ils vous le disent. Quand vous vous comportez, alors surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on a droit à des vertes et des pas mûres. Mais bon, je prends les vertes, c'est plus sympa. Et voilà, mais c'est vrai que... Mais ça, c'est pas parce que j'aime pas le public.
Ce n'est pas de la gratitude.
Non, pas du... Oh non, non, j'en parlerais pas comme ça si j'étais ingrat. J'ai pas quitté le métier de chanteur parce que j'avais assez du public. Je voulais amener mon public sur un autre terrain, le théâtre, qui est aussi un spectacle de création important et qui est très amusant. Voilà.
Le théâtre, là, vous ne l'avez pas abandonné, entre guillemets. La dernière fois qu'on s'est vu, vous faisiez vos adieux à la scène. Il n'y a aucun regret, d'ailleurs, d'avoir dit au revoir à la scène quelques mois
non,
après.
Non, parce que, si vous voulez, j'étais arrivé à un moment où je me souvenais de la phrase, je me suis souvenu de la phrase de Brel, qui m'avait dit le jour où, dans 300 chansons, 400 peut-être, quand tu commenceras à réécrire les mêmes que tu écris aujourd'hui, il faut arrêter. Et j'en étais là vraiment. C'est-à-dire qu'en écrivant, je me rendais compte que, j'avais, je recommençais les sujets que j'avais déjà traités, etc. Donc, je me suis reculé de l'écriture, j'ai fait la place à des groupes d'auteurs et de compositeurs différents, voilà. Et je me suis dit, je vais être en retard, je vais être derrière moi, quoi. Je vais me suivre, je ne vais plus être devant, je ne vais plus être le créateur, je vais être celui qui suit le... Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je disais, ça va... Je vais arriver à me confronter avec le concert de trop. Et ça, alors là, c'est ce qu'il y a de pire.
Alors parlons de vos chansons, justement. Michel Sardou, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne chanson ?
Une chanson où tout le monde s'y retrouve, finalement. Mais je dis ça et en même temps, je n'y crois pas. J'en sais rien, tiens, voilà. Ma réflexion, c'est que j'en sais rien. Le gros, gros truc qui me suit partout, j'ai reçu là un courrier des écoles HEC. Tous les ans, depuis des années, ils finissent sur les lacs du Connemara. Pourquoi HEC, ils finissent sur les lacs du Connemara. Bon. Et là, ils m'ont demandé de venir pour leur parler, pour clore l'année. Et ils dansent tous comme des Irlandais, les pieds en l'air et tout. Vous savez, le Riverside, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi les lacs du Connemara? Alors, la maladie d'amour, je peux comprendre. Ça concerne un peu tout le monde, au fond. Les Ricains, c'est un souvenir. Je ne sais pas trop. Il faut que quelque part, ça les touche. Voilà. Il faut que quelque part, ils disent, tiens, il a raison, j'aurais dit ça, moi. Ou j'aurais fait ça, peut-être. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Donc, on ne va pas rester 2 heures, je patine.
Vous donnez quand même une définition dans votre livre. Ma règle à moi, quel que soit le sujet, je devais aller au bout avec une vraie sincérité, même s'il devait en découler des mots durs, voire provocateurs.
Mais ça, c'est très différent. Ça, ça n'explique pas ce que retrouve le public. Ça, c'est moi, une fois pour toutes, j'ai mis cette règle-là. La sincérité, dire exactement ce qu'on a envie de dire. D'ailleurs, on y reviendra, il y en a une où je me suis pris comme un manche et j'ai raté mon coup. Mais la sincérité jusqu'au bout, au risque de déplaire. Je vous rappellerai une chanson qui peut-être vous dira rien, mais Walk the Line. Johnny Cash, qui a fait son disque absolument, qui s'est battu pour le faire en prison, qui a choqué tout le monde. Tout le monde a dit c'est un scandale. Comment il va chanter pour des assassins, pour des criminels, pour des condamnés à mort, pour ceci. Ça a été le disque le plus vendu du monde, de l'histoire du monde. Même les Beatles n'ont pas fait plus. Et moi, c'était un peu ma tradition. Écrire sincèrement, chanter sincèrement, avoir l'air convaincu. Parce que les gens pensent souvent que comme je dis « je », c'est ce que je ressens. C'est pas vrai. Je joue un rôle, je raconte une histoire. Bon, j'écris avec « je », donc évidemment, les gens pensent que je dis ça et que je pense ce que je dis. Je pense à le jouer, oui, c'est différent. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est très technique de comédien, on n'en finit plus.
Cette chanson que vous évoquiez, c'est évidemment « Je suis pour », paru sur l'album « La vieille » en 1976, un morceau qui va défrayer la chronique.
Oui.
Une partie du public pensant que vous affirmez dans ce texte, de votre plume, hein, je le rappelle, être pour la peine de mort. Aujourd'hui, vous dites dans le livre « Je jouais à un jeu de rôle ».
Oui. Je jouais... mon dessin premier avec cette chanson, parce que je ne tenais pas compte du tout de la polémique. C'était tout à fait au début. C'était pas encore l'événement national, la bagarre nationale qu'on a connue. Et je m'étais dit, je vais faire une chanson en disant, si j'étais le père de ce petit, et si...
C'était l'affaire Patrick Henry.
Oui. Et si j'avais mis la main avant la police sur le criminel, il n'aurait pas eu de procès, c'est moi qui l'aurais eu, j'aurais été en prison. Je l'aurais descendu. Mais au lieu de ça, les 4 premiers vers m'embarquent et je fais une chanson où effectivement c'est très ambigu, compte tenu du contexte, est-ce qu'il est pour la peine de mort ou quoi de la peine. Je vais vous dire la vérité, j'ai toujours été favorable à l'abolition de la peine de mort, parce que depuis le temps qu'elle existe sous toutes ses formes, ça n'a jamais fait reculer le crime. Donc pour moi, ça me paraissait normal, à l'époque où on est, de ne plus avoir ces coutumes-là. Mais bon, ça, je n'ai pas eu le temps de le dire. Tout le monde m'est tombé dessus, facho, nazi, que sais-je, tout ce qui est isme, du mauvais côté des ismes.
J'en ai pris plein la gueule.
Et à force d'avoir à m'expliquer là-dessus, mais ça dure encore. On en parle encore aujourd'hui, il fait 50 ans. Et alors j'ai dit, bon, j'en ai marre de m'expliquer, je ne veux pas expliquer à chaque fois que ceci, que cela, que je me suis trompé, ça arrive de se planter dans une chanson, mais les gens ne comprennent pas ça. Alors j'ai dit, le choix du titre est mauvais. J'ai pris ça comme excuse pour balayer toutes les interviews.
Vous ne l'avez plus jamais chanté sur scène après la tournée 76.
Non, mais j'ai chanté très peu, parce qu'en fait, ça n'a pas été un succès du tout. Ça a été un scandale. Mais ça n'a pas été un succès. Comme les Ricains. Les Ricains, j'ai été interdit par le gouvernement gaulliste, de Gaulle d'ailleurs, et j'ai été traité de facho par les communistes. Et je me souvenais simplement que les Américains avaient débarqué à Omaha pour nous sortir de la merde. Je ne vois pas en quoi j'étais fasciste. Alors, de Gaulle, ça s'expliquait parce qu'il sortait de l'OTAN et il évacuait les bases américaines. Enfin, ça, je ne pouvais pas le savoir. J'étais pas au Conseil des ministres ce jour-là. Mais voilà. Mais j'ai toujours eu ce malentendu-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, je dis quelque chose. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, par exemple. Mais c'est pas du tout pro-colonialiste, c'est anti. Voilà. Mais immédiatement, une étiquette, sur quoi que ce soit, j'écris les femmes des années 80. Il est anti-féministe ou misogyne ou je sais pas quoi. Mais ça n'a rien du tout de misogyne si vous lisez le texte.
Au contraire, vous espériez même en avance.
Puisque je les vois finir présidente de la République avec, et faire bander la France. C'est peut-être ça qu'il n'aura pas plus. Mais bon.
Mais pour revenir à Je suis pour, dans ce livre, il y a un vrai mea culpa. Et je me disais qu'il faut du courage pour écrire ça.
Non, je voulais mettre les choses au clair. Je voulais en finir, en fait. En finir de façon à ce que la prochaine fois que je vous reverrai, vous ne me parlerez plus de Je suis pour.
C'est promis.
Parce que j'avais 50 ans. Alors avec des exagérations, une chanson ne mérite pas autant de scandale. Je veux dire, c'est une chanson. Là, j'admets, j'aurais pu être plus intelligent. D'ailleurs, Gilles Thibault me l'avait fait remarquer, un ami à moi qui a écrit des chansons avec moi aussi. Mais j'ai été au bout. Mais je me suis planté. Piégé par les quatre premiers vers, paf, j'étais cuit. Ça m'a entraîné dans une suite de chansons qui n'est pas celle que j'avais prévue. Voilà, c'est tout. Rideau, c'est fini pour Je suis pour.
Et pour finir avec ça, c'est là où on voit les vrais amis. Vous vous rappelez que Guy Bedos a été un de ceux qui vous a soutenu à ce moment-là.
Et Montand. Reggiani.
Donc quand même des grandes figures de la gauche.
Ils sont des grandes figures de la gauche. Ils étaient tous de gauche. Mais je vais vous faire un aveu. J'ai lu, il y a un livre qui est sorti sur moi d'un jeune homme qui a fait une interview de plein de gens, dont La France Insoumise, Alexis Corbière, qui a été un fan depuis le début. J'ai eu dans mes premiers clients des trotskistes, moi. C'est magnifique. Ils me l'ont tous dit, d'ailleurs. Et ça, je ne pouvais pas le raconter, je le raconte maintenant, parce que, bon, d'abord, je ne suis plus chanteur. Je joue du guitry, donc on ne peut rien dire. Mais voilà.
Vous écrivez quand même, il n'empêche que pour beaucoup, je resterai un chanteur de droite, un chouïa réactionnaire.
Bah, bien sûr, pour beaucoup, j'ai cette image-là.
Et cette étiquette, elle vous
a
déplu ou pas ?
Je ne suis pas vraiment d'une droite solide. Je vous parlais de Mitterrand tout à l'heure, de Corbière ou d'autres. Je m'entends très bien. Pour moi, la gauche, ce n'est pas une ennemie. Il y a des choses qui me plaisent, la gauche. À droite aussi. Puis il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout en ce moment. Mais,
par exemple ?
Rien. Parlons pas politique, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Mais je veux dire, je ne suis pas de la droite. Parce que quand ils me disent de droite, ils sous-entendent extrême droite. Or ça, jamais de ma vie, j'ai été. Je ne suis pas raciste non plus, je le dis d'une façon amusante dans mon livre. Je ne suis pas anti-féministe, mais je ne suis pas de tous les féminismes. Je vais vous expliquer, si vous voulez absolument que vous foutez la merde. Je suis plus près de Mme Badinter, ça je suis féministe, là, que d'une dame que j'ai entendu dire un jour « je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas être violée tous les soirs ». Là, je ne suis pas féministe. Là, c'est la reine des cons. Là, j'en veux pas. Faut être complètement fou pour dire ça. Comme je ne suis pas non plus dans le genre genré, de cette dame qui dit à la télévision « Mon fils voulait être une fille depuis qu'il a 4 ans ». Vous vous souvenez-vous, à 4 ans, vous vouliez être ? Et vous ? Ben, moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait un sexe, moi, donc à 4 ans, donc c'était... Oui, quand j'entends des conneries comme ça, là, je me dresse. Là, le côté grande gueule fait son apparition. Mais le féminisme qui consiste à rétablir les salaires à la même qualité de travail, bien sûr. Respecter les femmes, mais bien sûr. Ne pas les traiter comme des sous-objets de ménage et de cuisine et de faire des enfants et de rester à la maison. Mais bien sûr, je suis d'accord avec ça. Comme on est tous écologistes. Bien sûr, je ne veux pas faire pourrir la planète. C'est pareil. Mais je ne suis pas du parti écologie. Parce que dès que l'écologie fait de la politique, là, je ne suis plus d'accord.
Ah oui, parce que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec les Verts.
Ils nous prennent pour les pommes, c'est ce que je dis. Bon, c'est pas de la politique, ça. C'est tout le monde est écologiste, en fait, si on réfléchit bien. Mais dès que ça devient un parti politique, forcément, ça braque. Voilà. Que je voulais dire.
Vous votez encore, Michel Sardou ?
Non, oui, bien sûr que je vote. Évidemment que je vote. Mais alors, quand ça ne me plaît pas, je ne vote pas. Quand je ne suis pas sûr, quand ce n'est pas une attirance, là, je m'abstiens. Voilà. Ne me demandez pas pour qui je votais l'année prochaine, je ne vous le dirai pas.
Alors, je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, mais est-ce que vous voterez l'année prochaine ?
Sans doute. Mais on a le temps. Regardez, si on nous avait dit il y a un an qu'on serait dans cette position-là aujourd'hui, vous auriez dit non, c'est pas possible. Bon, alors d'ici un an, qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut y avoir ? Qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête ? On n'en sait rien. Donc, voir des sondages aujourd'hui à la télé ou dans les journaux, ça me fait un peu sourire parce que c'est tellement aléatoire.
Je reviens sur les Verts. Vous avez un passage assez drôle, enfin que d'autres n'apprécieront sans doute pas, sur la voiture électrique, qui vaut des échanges avec votre épouse d'ailleurs.
Oui,
racontez-nous.
Oui. Moi, j'ai fait des courses automobiles, j'aime la voiture, j'aime conduire. Et le soi-disant magnifique silence des voitures électriques, mais ça me tue ça. Parce que ce qu'il y a de bandant dans une voiture, c'est d'entendre crier quand on monte les tours. Le silence, je m'en fous qu'elle soit silencieuse, ma voiture, je veux qu'elle fasse du bruit. Et j'étais dans une voiture de course, une Camaro montée course où ma femme était dedans. Elle était morte de peur parce que c'était sous la pluie, enfin, il faisait un temps de merde, j'étais à fond la caisse. Et elle arrivait, elle me disait rien pendant que je conduisais, évidemment, elle fermait sa gueule, elle était dans son coin. Et quand on s'est arrêté, elle me dit « Tu conduis avec ta bite, plus jamais !»
Parlons d'une de vos chansons les plus populaires, si ce n'est la plus populaire, Les Lacs du Connemara. Ça, le titre va avoir 40 ans dans quelques jours à peine.
Non.
Eh oui, c'est cette année, c'est dans quelques semaines.
Ah bon ?
Quelle relation vous avez avec cette chanson aujourd'hui ?
Oh, bah formidable, écoutez. Ils ferment les boîtes avec ma chanson. Ils se marient avec ma chanson. Ils font la fête fin d'école avec mes chansons.
D'HEC, oui.
HEC, Oudo, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas qu'elle. Et à chaque fois que je l'ai chanté en public, c'était une joie, ça met en joie. C'est une chanson qui met en joie. Alors j'ai un rapport magnifique. Alors c'est bizarre d'ailleurs, parce que, sauf une expérience que j'ai faite qui m'a fait rire, où j'ai fait un test ADN pour connaître mes origines. Vous savez, il y a un truc qui est très marrant d'ailleurs.
Qui vous a mis sur le cul, ce test ADN, écrivez-vous.
Je vous le dis, parce qu'on était à table comme ça, on était en réunion de copains, et on me parle de ce truc-là. Je dis, bah, tiens, je vais essayer. Et moi, dans ma tête, à cause de mon père, je me voyais italien depuis toujours. Au maximum grec, peut-être, un peu, mais c'est tout. J'envoie mon test me revient, et qu'est-ce que je vois ? J'ai 10% d'italien, c'est vrai, mais tout le reste, c'est écossais, gallois, irlandais.
Cherchez l'erreur.
Oh, moi qui déteste les Anglais depuis Charles VII, enfin William Wallace, même avant. Et je dis, c'est pas possible. Et va aller savoir. Et pourtant, c'est vrai, j'ai demandé une précision quand même. Je me suis renseigné, je voulais être sûr, parce que ça me paraît étonnant. J'ai jamais eu de. Et il y a une fille très marrante d'ailleurs qui m'a répondu et qui m'a dit, peut-être que les lacs du Connemara, c'était un retour de vos ancêtres.
quand cette chanson est née, vous n'aviez jamais mis un pied en Irlande.
Bah, j'avais vu, si, j'avais vu le film de L'Homme tranquille.
John Ford.
Oui, voilà, avec John Wayne et Maureen O'Hara, la plus belle de tous les plus belles. J'avais vu ce film-là, mais je suis pas, mais je veux dire, à l'époque où ça remonte à ma jeunesse, j'avais pas en tête du tout les lacs du Connemara. Mais quand j'ai écrit le Connemara, c'est venu d'un incident technique, en fait. À l'époque, on n'avait pas de keyboard comme aujourd'hui, on avait des Moog. Et le Moog de Revault, quand il a sorti de sa voiture, il avait fait 800 km sous le soleil, il appuie sur son clavier et sort des cornemuses. Il dit, moi, je vais changer ça tout de suite. Il dit, non, touche pas. On va faire une chanson sur l'Écosse. Delanoë était avec moi. Delanoë, il dit, attends.
Pierre Delanoë, le parolier.
Pierre Delanoë, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai tellement l'habitude que je sais de qui je parle. Pierre Delanoë, l'auteur que tout le monde connaît, un parolier extraordinaire. Et il me dit, attends, bouge pas, je vais en ville, je vais chercher un
guide.
Un guide touristique sur l'Écosse. Pour qu'on ait des mots vrais. Il n'en trouve pas, il trouve d'Irlande. Bon, j'écoute, on s'en fout. Écosse, Irlande, on fait l'Irlande. Et c'est vrai que les mots sonnent. Galway, Limerick, Connemara, bien sûr. Et là, on a fait un mariage irlandais. Alors, ça peut avoir un rapport très lointain avec le film de John Wayne, mais on n'y a pas pensé du tout. On a fait un mariage irlandais qui durait 7 minutes 54. Et là, je dis, les mecs, on se plante la gueule complètement. Aucune radio ne passera une chanson de près de 8 minutes. C'est pas possible. On est en train de faire une connerie, ça marchera pas. Et Pierre Delanoë me dit, écoute, on l'a fait, elle sera sur le disque, on verra bien. Et ils passeront un bout, puis ils couperont, ils chanteront, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, oui, c'est devenu une chanson dans mon répertoire une des plus importantes.
Même les jeunes de 20 ans, bourrés à 4 heures du matin, chantent Pourquoi les lacs bourrés, du Connemara.
Ils sont complètement conscients de ce qu'ils chantent. Vous êtes méchants que les jeunes à 4 heures du matin.
Ça m'est
moi,
arrivé,
j'étais bourré, mais je ne suis pas de la même génération. Ils ne se bourrent plus maintenant.
Mais ça vous touche?
Bien sûr, oui. Quand vous savez que vous avez des gens qui vous disent merci pour une chanson, bah, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes un con si ça ne vous touche pas.
Globalement, aujourd'hui, vos chansons, votre répertoire, avec le recul, vous les regardez comment, vos chansons, avec tendresse?
Oui. Là, j'ai vu tout à l'heure, ils ont sorti, je ne savais pas, chez Universal, ils ont sorti un coffret de Life.
4 CD.
Et j'ai vu à la télé un extrait où le public chante. C'est là où je vous disais tout à l'heure, où le public fait partie du spectacle. C'est que j'attaque la chanson, ils chantent. Mais tous. Ça donne un corps extraordinaire au spectacle. Ça m'a fait plaisir de revoir ça.
Vous avez conscience, Michel Sardou, d'être l'un des rares aujourd'hui où on descend dans la rue, on demande « citez-moi 20 chansons de Michel Sardou » et ils y arrivent. Ça n'arrive pas.
Oui, il y en a beaucoup qui ont entendu quand ils étaient petits dans la voiture de leurs parents. C'est souvent ça le truc. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent « quand j'étais petit, par exemple, qu'on partait en vacances avec les parents, ils mettaient la cassette ». Et il y avait tout mon dernier album, ou 3 albums, et c'était sans arrêt. Et bien sûr que ça me touche, ça me fait plaisir. Tant mieux qu'ils connaissent mes chansons, c'est fait pour ça, les chansons. Puis après, on finit, comme disait Trainet, par faire la 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 la, on ne se souvient plus du nom de l'auteur, mais ça n'a aucune importance.
Alors la question est sans doute difficile, voire cruelle, pour celui qui les a chantées, mais pour vous, Michel Sardou, quelle serait votre meilleure chanson, ou celle que vous préférez, et à l'inverse, la pire?
J'en ai pas. Honnêtement. Ah, du pire, j'en ai fait des mauvaises, attention, parce que tout le monde me dit, t'as écrit des chansons formidables. Oui, c'est vrai. J'écris de bonnes chansons, j'écris des chansons moyennes, et j'ai écrit ce qu'on appelle des chansons d'album, de fin d'album. On savait que ça passerait jamais, que ça serait au fond des albums, etc. Donc j'en ai écrit aussi des mauvaises. Celles que je préfère, je les aime toutes, en fait. Mais peut-être celle pour laquelle j'ai plus de tendresse, c'est pour les vieux mariés. Parce que c'est une histoire vécue. Non pas par moi, mais par Pierre Delanoë, par les parents de Pierre Delanoë. Elle venait, Pierre, on déjeunait ensemble avec Pierre, et il me dit, je comprends pas la chanson de Brel sur les vieux, avec cette pendule au salon qui dit oui, qui dit non, pourquoi noircir la vieillesse comme ça, pourquoi... Moi, mes parents, quand ils étaient très âgés, partaient en croisière, ils étaient... Bon, ils étaient pas riches, hein, mais ils avaient un train de vie, j'allais dire normal, ils avaient leur retraite, ils pouvaient s'offrir une petite croisière, ils partaient en voyage... Ils n'avaient pas ce côté sombre et terrible de la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Je finis déjà avec lui, je rentre chez moi, et d'entrée, j'ai écrit les vieux mariés. Je ne me suis pas arrêté une seule fois pour une rime. Je n'ai pas hésité une seule fois. Celle-là, c'est peut-être ma préférée. Voilà.
Est-ce que vous écoutez les jeunes artistes aujourd'hui ?
Alors ça, c'est la question qu'on me demande tout le temps.
Non ?
Tout le temps. Et aujourd'hui, on me dit, vous encore, vous êtes poli, mais on me dit, qu'est-ce que vous pensez des jeunes artistes ? Mais c'est ridicule. Je ne pense rien, d'ailleurs, ils s'en foutent de ce que je pense. Et puis, ils ont leur univers, leur son, leur musique, leur texte, leur public. Quand ils font des concerts, c'est plein. Ils sont très bien. Je veux vous dire que j'écoute les jeunes artistes aujourd'hui, je vais être franc avec vous, non. D'ailleurs, quand j'ai quitté le métier, le jour où j'ai arrêté de chanter, je n'ai pas été dévalisé un disquaire. J'ai été lire des pièces de théâtre. Donc, voilà. Alors, je ne les connais pas tous. De temps en temps, il y en a une qui me passe comme ça, par hasard, mais je ne sais pas qui c'est, je trouve ça bien. Mais je suis resté fidèle à mes chansons, à mes chanteurs, à moi. Bon, ça va de Springsteen à Johnny Cash, en passant par...
Yves Montand.
Yves Montand. Les Français, il y en a beaucoup. J'ai réécouté Reggiani, il y a des choses formidables dans Reggiani. Bon, mais là, ça fait un peu vieux con, ce que je vous dis là. Mais disons que je ne suis pas... je ne me tiens pas au courant. Je vais être honnête, je ne me tiens pas au courant.
Les femmes, on en parle.
Oui, mais ça dépend desquelles.
Ah ben justement,
oui.
On va parler de votre seule certitude, Anne-Marie, à qui vous dédicacez votre livre avec cette formule.
Oui, oui, elle, c'est vraiment là. J'ai décroché le gros lot, là. J'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai même marché sur la Lune. C'est une femme formidable, une femme qui comprend les artistes, surtout. C'est bien du fait qu'elle est elle-même une fille d'artiste, de grand comédien.
La fille de François Perrier, bien sûr.
Bien sûr. Et elle connaît nos angoisses, nos remises en cause, nos peurs, on n'est pas facile à vivre. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai raison de faire ça ? Est-ce qu'ils vont marcher à ça ? Est-ce qu'ils vont rire quand je vais jouer ça ? Est-ce que quand j'ai pris Guitry, par exemple, il y avait la moitié de mes copains qui étaient pour, l'autre moitié qui étaient contre. On dit, oh, Guitry, c'est vieux. Je dis, vous rigolez ou quoi ? Guitry, c'est complètement...
Intemporel.
Intemporel. Donc,
c'est devenu un classique.
C'est un classique. Bon, on ne veut pas le reconnaître. Les gens disent, cultiver ne veut pas reconnaître Guitry comme un classique. Mais si vous avez l'occasion, je vous le conseille de lire une pièce qui s'appelle « De Bureau ». De Bureau à son fils. De Bureau était un mime, très célèbre à l'époque. Et il donne une leçon de théâtre à son fils. Je m'en rappelle parce que Romain a joué cette scène-là avec Jean-Claude Brialy, qui faisait De Bureau. Et il y a toute une tirade sur le métier de comédien, sur le métier de gens qui font rire, qui ne se termine pas. S'ils ne te reconnaissent pas à la fin, c'est rien. On oublie toujours ceux qui vous ont fait du bien. C'est une pièce extraordinaire. Vous en parlez à Delon, il pleure, Delon, quand il lit la pièce. Alors, il me dit, moi, quand je la lis, je pleure. Pourtant, il est loin de ce personnage-là, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, donc il y avait la moitié qui était pour, la moitié qui était contre. J'étais hésitant. Puis finalement, j'en ai parlé avec ma femme. Elle a fait le bon choix.
Vous révélez dans le livre que vous avez été amant au tout début de votre histoire, il y a 42 ans. Votre amour est donc né dans le secret ?
Vous parlez de ma femme ?
Oui.
Vous m'avez fait peur.
Pas de Guitry, non ?
Vous m'avez fait peur. Oui, on s'est connus il y a... On se connaît depuis 44 ans, nous étions... Alors, c'était une relation...
Épisodique,
hein. On se retrouvait de temps en temps, comme ça. Elle avait sa vie, elle avait même des enfants, elle était mariée. Moi aussi. J'avais des enfants aussi. Et voilà. Et puis un jour, on a décidé, je lui ai téléphoné, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux m'épouser ? Réponds-moi par oui ou par non, comme ça on gagnera du temps. C'est pas peine que je te fasse une cour effrénée, on se connaît depuis 25 ans. Donc,
au téléphone.
Au téléphone, elle était à New York, j'étais à Paris. Et voilà, et ça s'est fait comme ça.
Vous avez cette formule, en parlant de votre femme, c'est ma mère en maigre. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre.
Il faut le prendre bien, parce que ma mère me surveillait toujours. C'était mon écuyer, ma mère. Bon, si j'avais été chevalier, c'est mon écuyer, il protégeait. Et ma femme, c'est pareil, elle veille sur tout. La santé, la forme, le régime, le commencer d'arrêter de fumer, j'essaye, j'ai un mal de chien, je suis avec des chewing-gums comme un abruti. Elle gère tout. C'est-à-dire que sans elle, vraiment, je le dis sincèrement, je suis complètement perdu.
À la fin du livre, vous écrivez « Quant à moi, confiné comme un pestiféré, il me reste des envies ». De quoi avez-vous envie aujourd'hui, Michel Sardou ?
Pièce. J'ai envie de jouer, de reprendre le souper, par exemple, que j'adore. J'ai envie, là, ce que nous allons faire en 2022, nous allons reprendre une pièce de mon ami Assous, qui est mort malheureusement cette année, pas du Covid, mais d'une maladie très grave.
Eric Assous,
qui m'a fait 3 succès quand même. Il m'a écrit 3 pièces qui ont bien marché. Et on va reprendre Nos femmes avec Patrick Chenet. Il est d'accord, il a donné son accord. On prendra ça pour la rentrée 2022. Là, en 2021, je pars avec Guitry. Et mon envie, j'ai une autre envie, à part le souper, une pièce que peu de gens connaissent, ou à mon avis que vous n'avez pas lue. C'est une pièce de Salacrou qui s'appelle « L'inconnu d'Arras ». C'est extraordinaire. Malheureusement, le problème, c'est que c'est une pièce à gros budget. Et comme vous le savez, le théâtre est pauvre. Donc je me vois mal aller voir un producteur, un directeur de théâtre, disons, on monte ça, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de décors, comme d'ailleurs la pièce de Guitry dont je vous parlais tout à l'heure, de bureau, où il y a beaucoup de changements de décors, beaucoup d'époques.
Et on ne joue plus beaucoup Salacrou aujourd'hui, ouais, faut le dire.
Ouais. Écoutez, la pièce, si vous tombez dessus, s'appelle « L'inconnu d'Arras », je vous la conseille, c'est une pièce formidable. En deux mots, ça commence, l'acteur est assis sur une chaise, il a un revolver à la main. Il met le revolver à sa tempe et il appuie. Et c'est le chemin que fait, durant le chemin que prend, qu'elle sort du canon, qu'elle rentre dans sa tête, on voit toute sa vie. Et c'est très drôle, hein, c'est pas du tout un drame. C'est émouvant, il y a de l'amour, il y a du rire, il y a tout ça, mais c'est une pièce extraordinaire. Monsieur est mort, monsieur est mort, monsieur est mort. Et ça commence comme ça.
Vous écrivez à la fin du livre, en ce qui me concerne, mon Seigneur devra m'attendre encore un peu. Est-ce que vous avez peur de la mort, Michel Sardou ?
Non. Honnêtement, non. Non, vous avez eu peur de naître, ou vous en souvenez ? Non, bon, on ne s'en souviendra pas non plus. Ce qui me déplairait, ce qui me fait peur, c'est pour ça que j'hésite en ce moment avec le débat sur l'euthanasie. Un jour oui, un jour non. Je ne sais pas quelle idée m'en faire. Ce que je n'aimerais pas, c'est me légubiser, quoi. Être à la charge, être... J'ai perdu un ami très cher récemment. Le pauvre, il n'est plus là, quoi. Ça m'emmerde. Alors dans ces moments-là, j'ai envie de dire oui. Et puis je me dis, au fond, un ami de ma femme qui a travaillé avec elle dans son magazine, elle, longtemps, Bobby, Jean-Dominique Bobby, il était malade, il était paralysé, il ne pouvait plus bouger, mais il avait encore un peu de tête. Il avait mis au point un système où il parlait avec un ordinateur en clignant des yeux. Et elle me dit, tu comprends, quand tu le vois, lui, il ne voulait pas mourir, lui. Et pourtant, il était comme Hawking, si j'ose dire. Avec ses yeux, il parlait, il voulait même retravailler.
Et il a écrit un livre.
Oui, il a écrit un livre.
Le scaphandre et le papillon, formidable.
Qui est devenu un film américain, ouais, fait par un peintre génial. Et lui, il ne voulait pas mourir. Alors là, évidemment, quand je vois ça, je dis non, on n'achève pas. Je vous dis, c'est un jour oui, un jour non, c'est comme Dieu. Ça.
Cet automne, Michel Sardou, une comédie musicale va démarrer. Elle s'appelle « Je vais t'aimer ». Et elle est basée autour de vos chansons.
Oui.
C'est un projet qui vous touche, vous en pensez quoi ?
Oh ça m'a fait plaisir, je trouve ça sympathique. Ils m'ont demandé l'autorisation de prendre mes chansons, bien sûr. En plus, le metteur en scène est renommé, c'est un des metteurs en scène du Cercle du Soleil, il sait ce qu'il fait. Alors, je ne connais pas bien l'histoire.
Alors, ça ne racontera pas votre vie, hein. C'est une
histoire inédite. Non, c'est pas un biopic, il faut être clair. C'est pas un biopic, j'ai horreur de ça. C'est un voyage, alors j'imagine que ça va être sur le France à un moment donné, parce qu'il y a mes chansons. Donc. Et durant cette histoire, mes chansons, les acteurs chantent mes chansons. Voilà.
Vous irez la voir, cette
comédie musicale ? Bien sûr, j'irai, bien sûr. Bien sûr.
Il y a une phrase qui m'a interpellé dans votre livre. À un moment, vous racontez un grand dîner aux États-Unis et vous dites « J'ai rencontré de très grandes stars, aucune ne m'a avoué avoir été heureuse ».
C'est vrai.
Est-ce que vous avez été heureux, Michel Sardou ?
Oui, moi oui. Mais je pense qu'on n'a pas le même tempérament, les Français et les Américains. Moi, j'étais frappé. J'habitais en deux mots chez Lise Taylor, j'étais invité. Et donc, je me retrouvais tous les soirs avec une, tout ce qui joue, tout ce qui chante, tout ce qui danse, tout ce qui pétille, il y avait tout ça. Et j'ai eu cette remarque-là, j'ai dit, c'est marrant, il y avait des stars énormes qui étaient là. Et je les trouvais, elles n'étaient pas heureuses, leur vie ne leur plaisait pas. Alors qu'on pourrait croire que c'était des princesses modernes, ou des princes modernes. Ben, ils ne sont pas très heureux. Quoi. Ça m'a frappé, ça. Moi, j'ai été très heureux. Très heureux de la réussite, très heureux de ma vie, en fait. Bon, j'ai raté des trucs, j'en ai réussi d'autres, j'ai fait des choses plus ou moins bien, mais non, je ne me suis jamais senti déprimé. J'ai pas eu le burn-out de tous ces comédiens, comédiennes qui sont, qui vivent l'enfer à Beverly Hills, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc ça me gonfle complètement.
J'ai promis la vérité, je vais m'y tenir, affirmez-vous, dès le début du livre. Michel Sardou, durant cette interview, avez-vous toujours dit la vérité et rien que la vérité ?
Je vous jure, votre honneur, je n'ai rien rajouté ni retranché.
Merci Michel Sardou.
Je vous en prie.
Merci.
Et au revoir, votre honneur.